Je crois que tout est toujours en question, que tout est toujours à sauver, que rien n'est définitivement acquis et qu'il n'y aura jamais de repos sur la terre pour les hommes de bonne volonté. Cette citation, nous la devons à un grand penseur du XXe siècle, Raymond Aron. Presque un demi-siècle après sa mort, celui qui fut résistant dès les premiers jours après l'appel du 18 juin, libéral convaincu, spectateur engagé de son temps, continue de susciter un grand intérêt, car sans doute sa pensée est à même de prodiguer jusqu'à nos jours de précieux enseignements. Raymond Aron, L'Esprit Libre, c'est le titre du dernier numéro de L'Arche, qui comporte un dossier spécial consacré à sa personne. Pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. Bonjour Perrine Simon-Naoum, bonjour Nicolas Baverez.
Bonjour.
Alors Nicolas Baverez, je vais commencer avec vous. Vous êtes donc avocat, historien, essayiste. Votre dernier essai Sursaut, paru aux éditions de l'Observatoire en 2024. Chroniqueur aussi, au Point et au Figaro. Perrine Simon-Naoum, on a l'habitude de vous recevoir. Vous êtes donc historienne, professeure. Vous êtes conseillère culture à la rédaction de L'Arche. Et on mentionne aussi du coup la parution, la republication des mémoires de Raymond Aron aux éditions Robert Laffont que vous avez annoté justement juste pour commencer rapidement. Donc vous avez travaillé avec L'Arche sur ce dossier sur Raymond Aron. Pourquoi en parler maintenant ?
D'une part parce qu'il y avait l'occasion d'un anniversaire, mais surtout parce que nous voulions offrir au lecteur un Aron inédit. Non seulement, je dirais, un Aron vu du côté du judaïsme, de l'intellectuel juif, vous trouverez un certain nombre d'articles qui traitent ce sujet, mais je dirais un Aron plus personnel, un Aron plus intime. Et je dois dire que les échos que j'ai de ce dossier me font penser que d'une certaine façon, nous avons réussi, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'essais, d'articles, d'ouvrages qui ont été, d'émissions qui ont été consacrées à Raymond Aron. Donc vous avez dit à juste titre qu'on revisite de plus en plus sa pensée. Et j'ai à ma gauche l'auteur d'une biographie indépassable. Mais ce qui était intéressant là, c'est finalement de demander à chacun de raconter son Raymond Aron, la vision qu'il en a, mais aussi ce qu'il en a retenu. Je pense que nous irons plus avant dans le numéro. Vous avez un article de Frédéric Worms qui dirige l'École normale supérieure, mais vous avez aussi un article de Louis Vassy qui est le directeur de Sciences Po. Enfin voilà, chacun son Aron. Et du coup, je crois que l'image que L'Arche renvoie de ce grand philosophe est une image qui est tout à fait inédite, aussi grâce à Dominique Schnapper, bien sûr, que nous connaissons bien ici, qui est la fille de Raymond Aron, mais qui existe tout à fait par elle-même et dans son œuvre, mais avec qui nous avons fait un entretien dans lequel je crois qu'elle a livré certaines choses dont elle n'avait peut-être pas encore parlé.
Nicolas Baverez, faire de l'inédit, faire du nouveau sur Raymond Aron en 2025, c'est possible ?
Oui, c'est possible pour deux raisons. D'abord parce que, comme on l'a dit, Aron, il ressemble à Tocqueville. C'est-à-dire, c'est un peu un astre solitaire.
Sur lequel vous avez beaucoup travaillé,
d'ailleurs. Comme ces grands libéraux, en réalité, ils n'ont pas eu vraiment d'école. Et par ailleurs, leur vie a été en fait plutôt rude, plutôt solitaire. Et ils ont été plutôt attaqués. Et comme par ailleurs, eux-mêmes expliquaient que ils n'étaient pas intéressants et que ce qui était intéressant, c'était les idées ou leur combat. En fait, ça, c'est une première raison. Et comme il a été dit par Perrine Simon, je pense que c'est très réussi dans ce numéro de L'Arche. Il y a une deuxième raison aujourd'hui, c'est que, et là aussi, la comparaison avec Tocqueville fonctionne, c'est que Aron et Tocqueville sont des gens qu'on oublie quand tout va bien. C'est-à-dire quand la démocratie fonctionne, quand le monde est relativement stable et pacifique, il n'intéresse plus grand monde.
Pourquoi ?
Parce que, précisément, ce sont des penseurs de la complexité et des penseurs de l'histoire quand elle accélère et qu'elle devient compliquée et qu'elle devient réelle, c'est-à-dire quand arrivent les guerres, les crises, les révolutions, quand la démocratie commence à ne plus tenir qu'à un petit fil. À ce moment-là, on les retrouve. On les retrouve pourquoi ? Parce qu'ils ont réussi à penser à la fois la force et la faiblesse de ces régimes. et surtout parce que ils ont une vraie dimension du combat pour la liberté dans des périodes très, très compliquées. Donc Tocqueville, c'est la montée de la société démocratique, mais c'est aussi en France l'incapacité à implanter une monarchie parlementaire, les répétitions du grand traumatisme de la révolution de 1789 en 1848, et puis finalement donc le retour de l'Empire. Aron, évidemment, c'est les deux guerres mondiales, l'effondrement de la République, la guerre froide. Et tous les deux, dans ces périodes compliquées, ont montré qu'il ne fallait pas désespérer de la liberté. C'est la fameuse phrase d'Aron en 1939 devant la Société française de philosophie, en juin 1939, donc, où il dit « Je crois à la victoire finale des démocraties, mais à une condition, c'est qu'elles le veuillent ». Quand on regarde aujourd'hui la démocratie qui, effectivement, aujourd'hui ne gouverne plus que 6% de la population mondiale. Donc, les vraies démocraties sont... Et quand elles sont très durement attaquées, c'est des périodes où, précisément, il faut non seulement lire Aron, mais s'inspirer de ce que vous avez dit, l'esprit libre. Et je rappelle qu'il avait créé, chez Calmann Lévy, justement, la collection qui s'appelait « Liberté de l'esprit ».
Sur la question de pourquoi Aron aujourd'hui, en général, un thème qui revient de façon récurrente, c'est sur la question de la modération, de la nuance. Raymond Aron serait une grande figure de la modération et de la nuance. J'aimerais être un peu taquin. La modération, est-ce que ça n'est pas être incapable de trancher ?
Alors, je ne crois pas du tout. Parce que, au contraire, d'abord, Aron, dès sa thèse, qui porte sur la philosophie de l'histoire, où il explique que l'homme est une histoire, l'homme est dans l'histoire, il montre bien que ce qui fait la dignité des hommes et ce par quoi ils accèdent à la liberté, c'est la décision. La décision, c'est le jugement, et donc ça n'exclut pas du tout l'exercice de la raison et de la modération, mais ça veut dire qu'on s'engage. C'est un spectateur engagé. Donc, il est vrai que Aron a toujours défendu... Il y a trois grands modèles de libéralisme. Il y a le libéralisme à l'anglaise, l'utilitarisme, c'est la rencontre des intérêts. Il y a le libertarianisme américain, dont on voit aujourd'hui les exemples avec Musk aux États-Unis, Milei en Argentine, et donc qui, lui, ne croit pas du tout à l'État et qui ne croit qu'à l'individu. Puis il y a le libéralisme politique à la française, qui part de Montesquieu, dont il a fait d'une certaine manière la généalogie dans les étapes de la pensée sociologique. Et ce libéralisme-là, c'est un libéralisme effectivement modéré. Pourquoi ? Parce que, y compris la liberté doit être modérée. Par exemple, contrairement à Hayek, Aron défend l'État-providence, parce qu'il pense que c'est précisément un socle de droit qui contribue à la liberté, parce qu'en sécurisant les citoyens, à condition que cet État-providence soit soutenable, on contribue à l'économie, d'un côté, et on contribue à la stabilité et donc à la démocratie de l'autre. Mais c'est là où il faut bien comprendre et où est la contradiction, c'est que les libéraux ne sont pas des peureux, ce ne sont pas des tièdes, ce sont des gens qui se battent pour de vraies valeurs et qui sont prêts à prendre des risques pour les défendre. Mais ça n'empêche pas l'esprit de nuance. Et ça n'empêche pas de refuser le manichéisme.
Les libéraux ne sont pas des peureux.
Non, je crois que Nicolas Bavrez a tout à fait raison. Chez Aron, on trouve une philosophie de l'action. Ce qui l'intéresse, lui, c'est le point de rencontre, je dirais, entre ce qui nous détermine et ce par quoi nous nous affirmons dans le monde, c'est-à-dire la liberté. Et il y a une chose sur laquelle il diffère de son maître Max Weber, c'est sur la guerre des dieux, c'est-à-dire qu'il y a chez Aron, depuis le départ d'ailleurs, et c'est ça qui est très impressionnant chez lui, c'est-à-dire que Nicolas parlait de sa thèse, la thèse « L'introduction à la philosophie de l'histoire » date de 1938, c'est-à-dire que l'un des premiers, finalement, Aron comprend, le jeune philosophe Aron comprend l'importance de l'histoire et la nécessité d'y agir pour l'individu. Et en fait, ce qu'il va chercher à déterminer, ce sont les conditions de cette action. Or, il le fait, et ça va être sa singularité, dans un monde intellectuel français qui est très idéologique, et plus encore celui des années 1950, qui est, on le sait, dominé par le marxisme, de toujours rester ancré dans la réalité. Et donc, je crois qu'au contraire, et c'est ça que nous enseigne Aron aujourd'hui, c'est la nécessité de partir des faits, de partir de la réalité, mais d'une certaine façon sans jamais désarmer des valeurs. Et du coup, toute sa vie, finalement, il va prendre des positions qui sont très courageuses.
Contre son camp, d'ailleurs.
Souvent contre son camp. Donc, vous rappeliez qu'il s'est engagé très tôt dans la résistance. On peut parler de la tragédie algérienne, oui. Le livre qu'il publie en 1957, où il prend position, mais pas pour des raisons idéologiques, pour des raisons qui tiennent à la démographie, à l'économie, à la politique pour l'indépendance de l'Algérie. Il prend des positions très fortes aussi dans le domaine des relations internationales, mais qui sont toujours fondées sur l'exercice de la raison et donc d'une certaine façon qui acceptent la pluralité du débat. C'est peut-être ça, et oui, je pense que c'est profondément ça qui nous manque aujourd'hui.
Et d'ailleurs, vous montrez qu'il y a sorte de miroir avec un de ses compagnons de route, en tout cas au début de son chemin avec Sartre, où vous mettez bien en exergue le fait que Sartre est resté assez, disons, centré sur ses propres activités durant la Seconde Guerre mondiale, alors que Raymond Aron tout de suite s'engage dans la résistance, s'engage intellectuellement.
Oui, surtout le grand décalage, ce qui est intéressant et fascinant d'abord, c'est que rarement une période de l'histoire peut se résumer à un choc d'idéologie ou d'idées. C'est le cas du XXe siècle, puisque ça s'organise autour de la bagarre, de la lutte à mort entre la démocratie et les totalitarismes. Et c'est vrai que cette opposition frontale de principes et de valeurs, elle est résumée par la trajectoire de ces deux philosophes qui sont nés ensemble, qui ont appartenu à la même promotion de l'école normale, qui ont donc, d'une certaine manière, une vie qui ont vécu exactement à la même époque, qui ont tous les deux fait de la liberté le cœur de leur réflexion et qui, à partir de là, ont eu des trajectoires complètement différentes.
Ce qui est d'autant plus touchant que vous mettez en avant une anecdote qui est je crois qu'ils avaient dit qu'à la fin de leur vie, le premier qui partirait ferait l'éloge funèbre de
l'œuvre. C'était ce qu'ils s'étaient promis quand, à l'école normale, ils étaient tellement proches qu'on les surnommait le Sartron, c'est-à-dire le mélange des... le mélange des deux. Ensuite, si je puis dire, on pourrait dire que chacun a d'une certaine manière son moment. C'est-à-dire que Sartre est complètement apolitique dans les années 30. Il va en Allemagne, il ne voit rien de l'hitlérisme.
Contrairement à Aron.
Ni des lois antisémites, évidemment, contrairement à Aron. Il est plutôt munichois, il est persuadé que Hitler ne fera jamais la guerre à la France. Il se trompe surtout. Ensuite, il est fait prisonnier et il a une pirouette fameuse, mais qui montre en réalité sa passivité. Il dit qu'il était plutôt un écrivain qui résistait qu'un résistant qui écrivait. En réalité, il s'est surtout consacré à son œuvre naissante et à sa notoriété qui commençait à s'affirmer. Aron est beaucoup plus politisé. Par exemple, ça peut surprendre, mais Sartre ne vote pas pour le Front populaire. Il s'abstient, tout simplement. Aron, lui, vote pour le Front populaire, mais il est guéri du pacifisme par le spectacle puisqu'il assiste à la prise de pouvoir, il est en Allemagne entre 30 et 33. Ensuite, le deuxième moment, donc pendant la guerre, Aron, en revanche, est très actif, puisqu'il est à Londres aux côtés du général de Gaulle pour s'occuper de la revue de la France libre. Et puis, évidemment, les années 50 et largement les années 60, c'est le moment où, selon la formule de Solzhenitsyn, Sartre devient le maître à penser de l'Occident. Mais c'est un maître à penser qui trahit vraiment l'Occident, puisque quand on regarde l'Occident, ça a été fondé quand même sur deux valeurs, la raison et la liberté. Quand on regarde en tout cas les écrits politiques de Sartre, c'est la déraison et non seulement le soutien ferme de l'Union soviétique qui est explicitement dit comme étant indépassable. Il se plaint même du rapport Khrouchtchev en expliquant que ça va désespérer les masses qui ne sont pas prêtes à comprendre la critique du stalinisme. Donc ça va quand même très très loin. Et puis ça s'inverse de nouveau à partir des années 70, où précisément, quand la gauche, l'intelligentsia française, bascule dans l'antitotalitarisme, elle redécouvre Aron, et Sartre, qui par ailleurs est très diminué, est plutôt discrédité. Mais ce qui est important, c'est le fond, c'est-à-dire que d'un côté, Sartre a une conception, à mon avis, complètement contradictoire et incohérente, puisque pour lui, l'homme, pour accéder à la liberté, doit se révolter et faire l'exercice de la violence. Et donc, la violence est en elle-même une vertu et un passage obligé vers la liberté.
Une fin en soi.
C'est une philosophie terroriste.
Ah, terroriste, vous dites.
Explicitement, et qui se revendique comme tel. Et d'ailleurs, il y a toute une série d'engagements de Sartre qui sont tout à fait en faveur de mouvements qui étaient des mouvements terroristes. Et c'est ne pas avoir compris que la violence, c'est une arme de destruction massive de l'économie, de la société et surtout de la démocratie. Aron, lui, sait très bien que la démocratie n'est pas parfaite, mais précisément, il essaye de construire, dans une époque donnée, un cadre qui permet à la liberté de résister aux deux types de menaces qu'elle doit affronter, les périls extérieurs, donc il y a eu Hitler, ensuite il y a eu Staline, et puis les périls intérieurs avec la dégradation par la démagogie, par également des mouvements qui peuvent relayer ces forces extérieures et essayer de déstabiliser la démocratie de l'intérieur.
Alors, Perrine Simon-Anaoum, vous avez écrit un article dans ce numéro de L'Arche qui porte notamment sur la condition juive avec Raymond Aron. Alors, quand on lit les écrits de cet auteur, on sait qu'il a un rapport à la judaïté particulier puisqu'il découvre son judaïsme de façon négative. Si on le renvoie à sa condition juive, je crois qu'il raconte une anecdote avec un de ses professeurs qui le désigne comme juif. Mais de manière plus générale, Raymond Aron a écrit du coup sur la condition juive dans la modernité. Quel est ce rapport du juif à la modernité chez Raymond Aron ?
Alors, je ne dirais pas qu'il est négatif. Il y a effectivement cette remarque de son professeur quand il est au lycée, mais le début des mémoires, donc qu'il publie quelques semaines avant sa mort, raconte dans une sorte de pure tradition juive, l'histoire de la famille et le rapport à la famille. Or, cette famille, elle est marquée par un événement qui est celui de l'affaire Dreyfus. Et donc, Aron vit ses années de formation, si je puis dire, à la fois dans cet amour de la France et de la République qui caractérise sa famille et de nombreuses familles de la bourgeoisie juive, et aussi dans le souvenir de l'affaire Dreyfus. Ensuite, c'est vrai que dans les années 30 et pendant la guerre, l'appartenance au judaïsme semble non pas s'estomper, mais en tout cas n'est jamais au premier plan. Et il a toujours le souci de séparer les choses, de distinguer les choses dans ses prises de position politique, notamment au sein dans ses articles qui paraissent dans La France libre, où il traite notamment du gouvernement de Vichy et des combats de la Seconde Guerre mondiale. Il y reviendra d'ailleurs à plusieurs reprises dans les mémoires, mais dans d'autres textes, pour se dire finalement pourquoi est-ce que je n'ai pas parlé davantage de l'extermination des Juifs, de la Shoah, qu'est-ce qu'on savait exactement. Enfin, on sent que d'une certaine façon, il y a là une forme de peut-être de remords ou de regrets.
Qu'il explique d'une manière ou d'une autre
par cette nécessité de la neutralité, encore une fois, de l'analyse, la pertinence de l'analyse qui ne doit pas être entachée, d'une prise de parti qui serait une prise de parti existentielle ou émotionnelle. Il s'est toujours beaucoup méfié de ça. Et puis, il y a le moment, évidemment, des années 60, Donc, autour de la guerre des Six Jours, qui est un épisode très connu de sa vie, qui renvoie à la publication de l'ouvrage de Gaulle, Israël et les Juifs, à travers lequel il répond donc à la fameuse conférence de presse du général de Gaulle du 27 novembre 1967, où le général de Gaulle donc prononce cette phrase sur « le peuple sûr de lui est dominateur ». Et là... Raymond Aron garde, je dirais, sa lucidité d'observateur et de critique en produisant toute une critique, une analyse critique de la politique internationale de la France au Proche-Orient. Et puis, effectivement, il a ces pages plus intimes qui prolongent deux ou trois articles qu'il avait déjà écrits au début des années 1960 sur, finalement, la condition juive et sur son propre rapport au judaïsme. Il se rend compte que dans cet exercice de raison critique qui a toujours été son œuvre, la raison ne tient pas toute la place. Et sans aller jusqu'à ce que disait son ami le père Fessard, qui voyait finalement dans l'attachement d'Aron à l'existence de l'État d'Israël une ouverture vers la transcendance, ça il n'a jamais été dans ce sens-là. Effectivement, il est obligé d'une certaine façon, je dirais, de modérer un peu, de faire à côté de la raison une petite place à quelque chose, à une inquiétude existentielle à laquelle il n'arrive pas en fait réellement à donner de qualificatifs philosophiques. Donc je crois que là aussi, sur la condition juive aujourd'hui, sur la manière dont nous devons penser les relations avec l'État d'Israël et la situation de la diaspora, dans la manière dont nous devons réfléchir finalement dans cette longue perspective historique de l'histoire du judaïsme, avec cette singularité, Aron a toujours reconnu que l'État d'Israël était un État comme les autres, un État normal, disait-il, mais que le peuple juif n'était pas un peuple comme les autres, que c'était un peuple singulier, précisément en fonction de l'héritage historique qui était le sien. Et je crois que ces remarques sont aujourd'hui parfaitement utiles.
Un point qui est intéressant que vous avez évoqué, on connaît effectivement bien les interventions de Raymond Aron sur « peuple sûr de lui-même et dominateur ». Il a aussi une évolution sur la question d'Israël, puisqu'il passe, si je ne dis pas de bêtises, d'une forme d'assionisme avant la création de l'État d'Israël, c'est-à-dire grosso modo une question qui lui importe assez peu, à un sionisme plus classique, mais qui malgré tout va rester, si ce n'est critique, en tout cas peut-être un peu inquiet sur la fin de sa vie.
Moi, je dirais qu'il est inquiet beaucoup plus tôt. Alors, il fait un premier voyage en Israël dans les années 50 et il est absolument enthousiasmé par ce qu'il voit. Voilà, la formation la formation d'une jeune nation, l'engagement de ses citoyens, tout ça correspond en fait aux valeurs qui sont les siennes. En revanche, l'analyse diplomatique qu'il fait, il sera très sévère, par exemple, au moment de la crise de Suez, pour les Israéliens comme pour à l'égard des Français et des Britanniques. Et il restera toujours très lucide sur la manière dont la conduite de la politique, je dirais au sens vraiment précis du terme, par les différents gouvernements israéliens, ne permet pas d'envisager en fait un règlement du conflit. Et ça, il le dit, je dirais, dès les années 60. Et de là, il n'a pas varié, je crois, sur cette position.
Je voudrais aborder une dernière partie en faisant réagir sur deux citations qui m'ont beaucoup plu chez Raymond Aron et qui peut-être symbolise sa pensée qui est à la fois ancrée dans le réel, libérale, comme vous le soulignez. Première citation sur la question des relations internationales, c'est précisément devant le colloque en 38 ou 39, la date m'échappe, pardon, où il dit la chose suivante, ça sera en résonance avec l'actualité. Face à des régimes qui déclarent que la force est la seule raison, face à des régimes qui affirment qu'ils sont héroïques et que les démocraties sont lâches, il me paraît dérisoire de parler perpétuellement de pacifisme, ce qui revient à enfoncer davantage dans l'esprit des dirigeants fascistes l'option qu'effectivement les démocraties sont décadentes. On a l'impression qu'on est en train de parler de l'Ukraine actuellement.
Non seulement de l'Ukraine, mais si on regarde les déclarations de Vladimir Poutine, c'est fondamentalement ce qu'il pense de l'Europe plus largement et de l'Occident. C'est d'ailleurs assez largement partagé par le Xi Jinping et le régime chinois et par une partie des pays du Sud aujourd'hui. Et en face, on a ce que dit Aron, mais ce qui était aussi ce que disait Husserl en 1938, c'est-à-dire que la menace pour la démocratie, c'est la lassitude, et ce qu'il faut jouer, c'est l'héroïsme de la raison. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, incontestablement, y compris d'ailleurs avec le regain de l'antisémitisme, on a malheureusement une structure années 30 qui est sous-jacente, hein, avec une paix manquée en 89 comme en 1918, un grand krach qui déstabilise les classes moyennes, et puis la montée de régimes autoritaires qui désignent la démocratie comme ennemie. Puis en face, on a des démocraties qui peinent à comprendre la nature de la menace, peinent à s'adapter et qui sont elles-mêmes à la fois fragilisées et désunies. Mais c'est là où, justement, la redécouverte d'Aron est intéressante, c'est que, d'abord, compte tenu de ce qu'a été le XXe siècle, il a passé son temps à... Beaucoup de ses écrits portent sur la guerre, le rapport de la démocratie à la guerre, de sociétés développées à la guerre, et comment la faire sans renoncer à ses valeurs. Et puis, il a aussi, justement, beaucoup travaillé sur la manière dont on peut se mobiliser pour combattre pour la liberté. Vous avez parlé de l'Ukraine. C'est assez remarquable de voir comment cette toute jeune nation est capable, aujourd'hui, d'affronter une période d'une violence extrême avec un adversaire qui cible en priorité les populations civiles, en priorité les infrastructures, et avec donc non seulement une armée qui se bat en étant très fortement minoritaire et qui pour l'instant tient, mais aussi une population derrière qui tient. Et donc je crois que c'est la partie aussi, le message qui nous est adressé et qu'on voit très bien qu'aujourd'hui, beaucoup des erreurs qui ont été commises dans les années 30 sont refaites aujourd'hui, c'est-à-dire la désunion à l'intérieur des nations et la désunion entre les nations libres.
Pour nos spectateurs, je rappelle donc le dernier numéro de l'Arche, Raymond Aron, L'Esprit Libre. Merci à vous deux pour vos interventions. Je rappelle donc la réédition aux éditions Robert Laffont des mémoires de Raymond Aron que vous avez annotées. Évidemment, Monsieur Baverez, vous avez aussi beaucoup écrit sur Raymond Aron, notamment une biographie. Et on renvoie donc à vos travaux respectifs. Merci à vous.
Merci beaucoup.